la douleur.
Ici et maintenant, il était bien normal que cette série d'émissions consacrées à Léo Ferré commence par Ludwig, puisque Ludwig a été une des chansons les plus passées sur radio ici et maintenant, sur cette antenne. Ça a duré à l'époque 3 jours, c'était en 1983, quand Ludwig est sorti, on a eu le coup de foudre. Et pour que vous puissiez bien écouter cette chanson, bien écouter les paroles, on vous l'a passé pendant 3 jours sans interruption. Et c'est resté dans toutes les mémoires, j'imagine, dans celle de Léo Ferré en tout cas, c'est sûr. Léo Ferré à qui nous allons consacrer l'intégralité de cette émission, ainsi que l'intégralité des émissions qui vont suivre pendant tout le mois de novembre. Pourquoi ? Ben simplement parce que nous l'aimons bien. Et aussi parce que Léo Ferré va faire une nouvelle rentrée du 2 au 25 novembre au TLP Déjazé. Il est prudent de réserver, alors je vais vous donner tout de suite l'adresse du Déjazé, le Music Hall de Paris. Le TLP Déjazé, c'est 41 boulevard du Temple, au métro République. C'est le 42 74 20 50. Je vais vous donner un autre numéro de téléphone parce que cette série d'émissions consacrée à Léo Ferré se conclura par un entretien avec lui-même qui ne sera pas forcément diffusé en direct dans le studio, quoi qu'on l'espère encore, avec vous, au bout du fil.
Est-il vrai que vous êtes dans le Wouzou ?
Je ne sais pas ce que c'est, le Wouzou.
Le Botamonde.
Ah, je sais pas.
Arlette Laguiller vient d'y entrer. Léo Ferré n'y est toujours pas, vous savez pas.
Ah, moi je sais pas, parce que je sais pas qui est Arlette Laguiller, alors je sais rien.
Ok. Comment expliquez-vous le succès que vous avez obtenu ?
Le succès, vous savez, c'est. Il y a longtemps que je chante, petit à petit, les gens sont venus à moi, et puis les gens doivent parler entre eux. Vous savez, moi je n'appartiens pas à cette chose publicitaire qui se fait actuellement, ce mouvement de télé et tout ça, où il y a des vedettes qui durent 15 jours, quoi, même, ou 3 mois, je sais pas quoi. Et autrefois, ça n'existait pas, ça, moi, je suis venu après. Par exemple, imaginez un peu Traîné quand il est arrivé. Je parle pas de son talent, qui est énorme, hein, mais lui, il arrive, c'est extraordinaire, il était gêné par personne. Hein. Quand on a un chanteur aussi qui chantait des chansons de ce moment-là, qui étaient des chansons, hein, bon, on ne disait pas grand-chose, ils n'étaient jamais gênés, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salles sont remplies par des vedettes qu'on improvise et qu'on connaissait de faire marcher, parce que ce sont des producers, je m'excuse de parler, de dire le mot à l'américaine, parce que c'est comme ça qu'ils parlent, ces gens-là, pour faire, je sais pas moi, pour gagner de l'argent, quoi. Hein, c'est vrai, quoi. Marketing, n'est-ce pas?
Alors vous pensez quoi de ces jeunes chanteurs qui durent 15 jours, comment les recevez-vous ?
Ah ben je ne les reçois pas, moi je ne connais pas. Moi je. S'il y en a qui ont du talent, ils ne doivent pas passer, on ne doit pas les connaître.
Vous avez été comblé par la vie, par l'argent peut-être.
Non.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque encore ?
Non, moi je n'ai pas été comblé par la vie et par l'argent, surtout pas. Par la vie, oui, moi je suis un type heureux, hein. Mais par l'argent, non. Là, maintenant, depuis quelques années, je gagne ma vie, moi, parce que je chante et que les gens viennent m'écouter. S'il n'y avait personne dans les salles, ben, j'irais me rhabiller, hein. Parce que je ne dois rien à personne, c'est ça. Ma force, c'est ça, hein. Et vous me demandez autre chose aussi.
Qu'est-ce qui vous manque encore ? Est-ce qu'il vous manque quelque chose ?
Non. Oui. Ça, je prends les choses quand elles viennent, hein. Voilà.
Bon. Qu'est-ce que vous faites de vos économies ?
Des économies ? Si vous me demandez maintenant combien j'ai d'argent sur moi, je vous dirais que j'ai rien du tout. Je ne m'occupe pas de l'argent, ça ne m'intéresse pas. J'ai heureusement une femme qui est très bien, qui s'occupe de l'argent, qui fait attention. Et puis nous avons des enfants, nous sommes en Italie. L'argent... Je sais pas, moi j'achèterais quelque chose qui me plairait de même et je crois après ça.
Où voyez-vous la frontière entre la liberté et la survie ?
Bah, vous savez, la liberté et la survie, je vois pas du tout comment vous voulez en venir, mais la frontière, la liberté et la survie, entre la liberté et la survie, c'est... Il faut être libre et survivre à sa propre liberté, parce que la liberté, c'est un mot un peu, par moments, actuellement, un peu grossier, hein, et qui est mal interprété, alors je ne m'en occupe pas.
Vos relations avec le rire, vous avez dit que vous ne riez plus.
Le rire, Vous savez, moi je ris quand quelque chose me fait rire. Vous comprenez, hein? Il n'y a pas beaucoup de choses qui me font rire, quoi. C'est ça. Vous comprenez? Et puis, je ne peux pas supporter. Il y a à la télévision, il passe des trucs américains. Je crois que c'est une combinaison, parce que ce n'est pas pensable, avec des petits mots, vous savez, dans le dialogue. Alors, on entend les gens rire. Ça. On se demande pourquoi ils rient, quoi. Mais je crois que c'est une combine, non? Je sais pas. Il me semble, non? Ça veut dire une combine, bref.
Alors moi, ça me fait penser à Coluche. Est-ce que vous avez suivi un peu ce...
Ah oui, Coluche. Coluche, c'était un type qui faisait rire, qui est très bien. L'autre aussi, vous savez, le Luron. Ah oui, le Luron était très drôle aussi. Le Luron, Coluche, et puis il y en a quelques autres, quoi. Il y a un type pas mal qui fait rire, c'est... celui qui travaille actuellement, là. Il a dit le jour, qu'est-ce que vous faites quand je suis pas là, au public? Ça m'a fait rire. C'est Bedos, oui.
Alors, un petit peu plus loin dans ces questions de caractère général, on va parler un peu de la mort. Comment souhaitez-vous mourir?
Vous savez, je ne souhaite pas mourir. Hein. Je souhaite rencontrer la mort. Je parle, vous n'avez pas vu mon tour de chant actuellement, on n'est pas assisté. Je chante une chanson sur la mort, qui s'appelle La mort, que j'ai fait dans un disque il y a longtemps. Peut-être 15 ans, quoi. Que je n'avais jamais chanté en public. Je la chante parce que l'année dernière, ou il y a 2 ans, m'est arrivé. J'ai eu une aventure au téléphone, je ne réponds jamais au téléphone. Parce que je n'aime pas le téléphone. Et puis. C'est mieux comme ça, mais je réponds quand je suis seul à la maison. Hein. C'est jamais pour les enfants, pour quelque chose, pour ma femme, pour les gens qui s'occupent de nous. Et j'ai reçu un coup de téléphone à 11h30 du matin. Alors je décroche. Allô? C'est une femme. Je dis, allô madame, de la part de qui? Je suis la mort, monsieur. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et j'ai eu le temps de lui répondre, moi aussi madame, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et c'est une blague. Mais jamais personne ne m'a indiqué après. Hein. J'attends toujours que quelqu'un me téléphone ou vienne me voir. C'est moi qui fais ça.
À part ça, est-ce que vous avez envisagé votre mort et les suites à ça? Et comment avez-vous demandé à être enterré ou incinéré? Est-ce que c'est déjà écrit, une forme de testament?
Quand j'ai de mort, j'ai de mort. Hein. Moi, je voudrais mourir comme ça dans un arbre, quoi, dans la terre, comme ça, en m'envolant un peu, quoi. La mort, c'est la disparition. Vous savez, les gens qui pensent à la mort, qui vont à l'église, qui vont... Ça m'énerve, ça. Ah là là, terrible. Je pense que se faire incinérer aussi, je me demande si... On n'a pas le droit de se faire incinérer, je crois, soi-même, quoi, hein. Pourquoi? T'es mort, on t'enterre, on te met dans un coin, puis terminé, quoi.
Mais c'est ça aux autres.
Ben, je sais, pour l'incinération. Alors, moi, je me dresse pas, c'est la mort, c'est terminé, puis voilà, quoi. À moins que, il y ait quelque chose, je sais pas. Ça, je vous le dirai quand je serai mort.
Vous avez déclaré, moi j'ai entendu une déclaration de vous, c'est « La mort doit être une grosse surprise ». Avec votre imagination, vous imaginez justement ça comment?
C'est une très belle femme. Plus belle qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais vu une femme belle comme ça, voilà. C'est ce que je prétends. Je chante quand avec l'orchestre, quand j'ai un orchestre. Mais quand on ne me donne pas un orchestre, alors je ne chante pas, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Je ne m'appelle pas machin, machin, chose, c'est tout ça. Je viens de voir là, je viens de savoir, je dis ça parce que ça me... Pardon. Ça m'énerve au maximum. Je viens d'apprendre qu'on vient d'ouvrir, là, pour la première, quoi, l'Opéra de la Bastille. Hein? Avec une œuvre italienne, qui vaut son pesant de moutarde, d'accord. Il y a déjà française. Hein? Avec des chanteurs italiens et des chanteurs français. Avec un chef d'orchestre coréen. Ça te fait pas rire, ça? Je trouve ça dégueulasse. Vraiment ignoble. Et ce type qui se... Et le patron de ça, c'est un type que j'ai connu, avec qui j'ai eu des mots, je ne sais plus en quelles circonstances, qui était avec Buffet, maintenant il est avec Saint-Exupéry, non, c'est un... Hein? Saint-Laurent, oui. Bon, c'est Saint-Exupéry. Saint-Laurent, et... Il a été nommé directeur des trois opéras. C'est un monsieur qui fait des robes. Oh là là, vous savez, c'est ignoble. Vraiment ignoble. Je suis seul à dire ça. Hein? Mais tant pis, je le dis. Hein?
On revient à Ludwig. Alors Dieu, c'est vous aussi?
Pourquoi je parle de Dieu dans Ludwig? Ah, je me souviens pas. Dieu, donc, comment je dis ça? Je sais pas.
N'oublie pas que Dieu, c'est toi aussi.
Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ben, ça, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Et vous savez, ça avait commencé comme ça. J'étais tout jeune. J'avais 14-15 ans, j'étais en deuxième avant le bac, là. On allait promener. J'étais dans un collège français en Italie, à 20 km de la frontière. C'était un collège français avec les frères des écoles chrétiennes. Excusez-moi de vous parler de ça. Hein? Les frères des écoles chrétiennes. Eh bien, alors jour on a été, on était deux ou trois par trois en promenade. Ouais. Et le type nous disait, bon, il faisait signe, on pouvait parler, mais quand il fallait s'arrêter, on s'arrêtait. Vous vous rendez compte? Hein? J'ai vécu ce moment-là, moi. Ces moments où on me disait, arrête, ne parlez pas, alors on n'en parlait pas. Hein? Bon. Alors d'aller près de la mer, Méditerranée, avec beaucoup pas de sable, il y avait du gravier. Mais c'était une mer assez espacée, n'est-ce pas? Et j'ai écouté à ce moment-là, j'avais écouté un jour l'ouverture de d'Egmont. J'ai écouté ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré, puis alors je me suis caché parce qu'on ne pouvait pas pleurer pour des choses internes comme ça. On se moquait de vous. Alors on est rentré en classe après, et le type que nous a dit le professeur, alors qu'aujourd'hui l'histoire est faite, vous avez trouvé. Alors moi j'ai raconté mon histoire. Et le type, il l'appelait. Alors Beethoven, il s'est moqué de moi. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit ça, il n'y a pas longtemps. Ça m'est revenu comme ça. C'est pour ça que j'aime Egmont. Et Beethoven, bien sûr. Hein. Mais je ne peux le faire que... Je ne désire le faire qu'avec l'orchestre. Je peux effectivement le faire avec la bande. Hein. Avec l'orchestre. Je l'avais fait au Canada avec l'orchestre de Montréal. Et... ça me plaisait beaucoup de faire ça. Alors je fais ça en pleurant parce que ça me rappelait que je redevenais petit comme ça.
En fait, Rembrandt, vous pensez vraiment qu'il n'a dessiné que des fadaises?
Qui donc?
Rembrandt.
Ah non, mais il n'a jamais dessiné une fadaise.
Non, mais vous le dites.
Ah non, mais je le dis en riant, non?
J'espère.
Ouais, enfin, voyons. Vous vous rendez compte?
Alors la conclusion de Ludwig, c'est quand même la seule invention de l'homme, la douleur. La conclusion d'Apocalypse Now, le film, c'est Marlon Brando qui dit l'horreur. Alors est-ce que vous pensez que ce sont des conclusions d'un philosophe d'aujourd'hui sur la nature humaine, la douleur, l'horreur, la souffrance?
Peut-être, mais ça, ce n'est pas moi qui l'ai vécu.
Est-ce qu'on peut savoir vos goûts en matière de chansons?
De chansons?
Oui.
Moi j'étais étudiant, il y a eu un grand chanteur que j'ai découvert, c'était Trélé. Fantastique type. Et puis la chanson.
Vous n'en écoutez plus?
Hein?
Vous n'en écoutez pas?
Dans la voiture, des fois ma femme met les chanteurs, c'est horrible quoi. C'est abominable quoi. Abominable.
Je crois que vous aimez bien quand même Hubert Félix Thiéphen. Est-ce que vous le connaissez? Vous l'avez rencontré?
Oui, je l'ai rencontré, je l'aime bien. Je l'aime bien.
Gérard Manset, vous connaissez?
Pierre Armancé, de nom. Mais maintenant, vous savez, des fois, j'oublie les choses. J'oublie les noms des gens, je les connais, mais je ne me souviens pas de... Je ne fais pas leur apprendre le nom et la personne, quoi.
Et les, parmi les chanteurs étrangers, Bob Dylan, vous en parlez dans une de vos chansons. Je crois que c'était les temps difficiles, il y a quelques années.
Ah oui, oui, Bob Dylan. J'ai dit qu'il chantait à Saint-Mendru, il s'appelait Zimmerman. Il chantait avec moi, d'ailleurs. On ne chantait pas loin l'un de l'autre. Bob Dylan, c'est des faiseurs, ça. Il y a un immense chanteur. Je ne parle pas de l'homme, hein, paraît-il, il n'est pas, ça veut dire, moi je ne le connais pas. Un immense chanteur qui a une voix fantastique. C'est... Regardez, je ne sais plus son nom. On ne connaît que ça, Frank Sinatra. Et lui, il y a eu Bing Crosby, et le troisième, là, vous savez. Alors comment ça se fait que dans un pays comme ça, où il y a 250 millions d'habitants, ou 220, je ne sais pas, qu'on ait trouvé deux, trois chanteurs comme ça, c'est tout. Parce que maintenant, on n'en entend pas comme ça. C'est extraordinaire.
La musique en général, qu'est-ce que vous écoutez ?
Oh, moi, j'ai tout écouté en musique, vous savez. Je n'écoute pas maintenant parce que je n'ai pas le temps. Et puis les facilités de conversation qu'on peut avoir avec soi-même, avec ce qui vient de l'art et tout ça, hein, sont tellement énormes qu'on n'a plus envie. Moi je dis que le disque compact tue la musique. Les gens, vous savez, si vous rentrez dans une Fnac, etc., les gens qui rentrent là-dedans, bon, ils peuvent trouver le disque qu'ils cherchent. Mais s'ils cherchent, s'ils regardent un peu comme ça pour te chercher, te trouver, c'est abominable, quoi. Abominable. Et ça tue la musique, ça. Ça tue le goût qu'on peut avoir pour la musique. Ça fait moins de confiance, c'est vrai. J'ai cru dans le journal italien, un jour j'ai vu... C'est peut-être un grand musicien, un grand chef d'orchestre. Je ne me rappelle plus le nom italien, mais enfin, ça veut dire ça. Toscanini replâterait. Oui. Toscanini, parce qu'ils l'ont enregistré maintenant, alors qu'il avait enregistré en 45, je sais pas, en 40, des choses comme ça. Et puis il y avait sur la page à côté, il y avait une histoire sur Bert von Karajan, qui était. Ils l'ont appelé le compositeur, vous vous rendez compte. Il a tout fait, je dis. Il a fini par se faire appeler compositeur après sa mort, quoi.
Vous disiez dans l'émission de Jean-Christophe Averty qu'avoir assisté à un concert de Karajan, c'était en playback.
Oui. Moi, je croyais que... Non, je parle de blague, hein. Un jour, j'étais en Italie, j'ai vu à la télévision, il y avait la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. J'ai dit à Marie, tiens, regarde, j'aime pas ce type, mais là, quand même, c'est bien. En parlant de Karajan, etc. Et puis voilà. Il y a quelques, trois ou quatre ans après, j'ai rencontré l'assistant de Clouseau. Et j'ai su que Clouseau travaillait avec Karajan pour faire des cassettes, pour vendre les trucs. Hein. C'est plus de la musique, c'est des pommes de terre, n'est-ce pas? Et alors, j'ai raconté ça. J'ai dit, ça m'a... Ce que j'avais dit à Marie, ce type, je ne pouvais pas le supporter bien, mais... Ça, c'était bien. Et l'assistant de Clouseau me dit, vous savez, c'était d'autant mieux que c'était en playback. C'est-à-dire, ils avaient enregistré, et lui, après, jouait en se fermant les yeux, tout ça, etc. Et les musiciens faisaient semblant. Voilà. Vous ne croyez pas, ça?
C'est à la télé, quand même.
Hein?
C'est à la télé. C'était pas en concert.
C'était pas en concert.
Ouais, mais quand même.
Non, parce qu'il y en a aussi, il y a des chanteurs de variété qui font du playback sur scène.
Oui, oui, alors là. On voit que des fois, il vaut mieux de faire du playback que du back tout de suite.
Où en sont vos rapports, s'il y en a jamais eu, avec Pierre Boulez?
Je connais pas.
Non.
Je connais pas. C'est un. Il est très fort parce qu'il fait tout ce qu'il veut, quoi. Ça, j'ai jamais compris. Il y a un mystère autour de ces choses-là. Autour de ces musiciens, il y a un mystère. Je pourrais vous dire des tas de choses, je ne vous le dis pas parce que après, je vais me faire courir après. Mais moi, c'est pas que j'aime pas cette musique-là, de Wojciech, de Hallenberg. Je trouve ça formidable. Le deuxième concerto pour violon de Bartok, qui était. Le deuxième mouvement, c'est de la musique que j'appelle moi dodécacophonique. Hein. Très bien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du génie. Ils avaient du talent. Hein. Mais machin, il n'est pas comme ça. Là. Celui qui a inventé ce truc-là. Mais Ström, comment il s'appelait? Non, là, c'est l'artiste de cinéma. Le type qui a inventé la musique dodécaphonique. Il est connu, oui. Non, non. Il écrivait comme Wagner, tout ça, et puis un jour il a inventé ça. Et j'avais une lettre de lui qu'il avait envoyée à mon oncle, qui était secrétaire du théâtre à Monaco, que j'ai donnée à un critique. C'est un type très connu, hein. Et dans cette lettre, lui, il habitait à Roquebrune, il allait à l'hôtel là-bas se divertir un peu l'hiver, quoi, peut-être. Il avait dit. Vous pouvez tenter voir. C'était un nom qui ne le ressemblait pas, quoi. Un nom d'argot, ça. Je puisse rentrer à l'œil. Je peux rentrer à l'œil, tout ça. C'est un type très très connu. Pas joué maintenant parce que je pense c'est injouable. La musique, il faut que ça fasse pleurer. Sinon, c'est pas de la musique. Voilà.
Question d'auditeur. Ah oui, pourquoi l'opéra du Pau se termine-t-il par le chant du hibou, qui est une partie musicale, alors que cet auditeur croit se rappeler que vous avez dit qu'il y avait forcément des paroles dans un chant.
Forcément des paroles dans
un chant.
Dans un chant.
Le chant du hibou.
Le chant du hibou. Le type dit ça. Bon, ça veut rien dire, ça. C'est un concerto pour violon, hein, définitif, que personne ne joue, bien sûr, quoi. Que j'ai joué, moi, avec ce violoniste italien, fantastique, et qui était à la retraite maintenant, qui faisait partie de l'orchestre de Milan avec lequel je travaille. Magnani, il s'appelle, Magnani. Et Giuseppe Magnani, c'est un type fantastique. Il y a des gens qui devraient être connus, vous savez, qui devraient jouer. Hein. Et ce type, il est maintenant, il a 65 ans, peut-être 63 ans. Il joue pas. Pourquoi il joue pas? Parce qu'il n'est pas dans le coup, quoi. C'est terrible, vous savez, la musique. Hein. La musique vivante, quoi. Hein. La musique vivante, par les hommes vivants, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Personne ne s'en occupe, ou ceux qui s'en occupent ont des combines abominables. Abominables. Voilà. Moi, je n'arrive pas à avoir un orchestre. Oui, je peux en payer un, une fois, deux. Deux fois, hein, c'est cher, hein. Et qu'est-ce que je fasse? Au Palais des Congrès, il y avait un type qui m'avait aidé, et qui s'appelle Roland Hubert. Je voulais peut-être raconter ça, non? Qui s'appelle toujours Roland Hubert. Je suis resté au Palais des Congrès pendant 25 représentations. Hein? Il y avait un Beethoven, une ouverture, je ne sais plus, sans mes paroles. Et je dirigeais le concerto pour piano pour la main gauche, par Dagachatz, qui est un pianiste fantastique. Et depuis qu'on fait de la musique... Attends, là, je vais vous paraître prétentieux, mais je m'en fous, c'est comme ça. C'est pas par prétention que je dis ça, hein, vraiment. Je dis ça comme un petit garçon. Hein. Quel est le chef d'orchestre, depuis qu'on fait de la musique, même un peu avant Beethoven, parce qu'il n'y avait pas des grands orchestres, hein, qui a fait le même concert pendant 25 fois de suite dans la même salle et qui l'a rempli à 3772. Excusez-moi, j'oublie ça parce que c'est vrai. Hein. 3772. Quel est le chef d'orchestre? Qui? Karagan? Non. Alors, moi, c'est pas parce que moi je suis un chef d'orchestre. Non, moi, je suis rien, moi. J'ai amené au théâtre des gens très intelligents qui connaissent pas bien la musique et qui sont venus. Et voilà, parce que ils auraient pu ne pas venir en disant la chanson, mais ben ça les a intéressés.
Et il y a une femme qui est venue dire à mon pianiste des choses. Alors, en tout cas, il y en a une qui lui a dit « Ah, c'est vous, Ravel ?» C'est adorable, parce que ça veut dire que des gens, tout d'un coup, s'inquiètent, n'est-ce pas ? Voilà.
Est-ce que vous vous croyez exceptionnel ? Ou est-ce que vous pensez que tout le monde peut écrire et composer de la musique ?
Non. Mais j'en parle pas le mot exceptionnel, hein. Moi, j'ai été comme ça. Moi, je suis comme ça, quoi. Quand j'étais petit, vous savez, Mathieu avait... En 75, il avait 5 ans. On était devant la maison où ma mère avait son appartement, un appartement que j'ai gardé à Monaco, et qu'elle louait, et que je continuais à louer. Et il y avait une amie de ma mère, là, qui m'a dit « Oh, tu te rappelles, Léo, quand tu avais l'âge de Mathieu ?» Donc, elle voulait dire quand j'avais 5 ans, que tu dirigeais des orchestres imaginés à l'Empamboismola, mais des orchestres comme ça, où il y avait personne dans la rue, sur les remparts, là-haut. Et je m'en rappelais très bien. Hein. Je dirigeais des orchestres, il n'y avait personne. Et pour moi, il y avait 100 musiciens. Alors je parlais aux musiciens, et puis j'allais les voir. J'étais comme ça, j'allais voir la trompette, ou j'allais voir le violoncelle, ou le saxophone, et je disais, non, c'est pas comme ça. T'as compris ? Et je venais, et je dirigeais, vous vous rendez compte ? J'avais 5 ans, il n'y avait pas de radio, pratiquement pas de radio. Je connaissais pas la musique, c'était de la musique à moi qui me sortait comme ça, voilà.
Vous entendiez vraiment votre musique à ce moment-là ?
Oui, qu'est-ce que vous voulez que j'entende ? Je pensais que tous les gens étaient comme moi, que tous les gens avaient des problèmes, des trucs, qu'ils mangeaient, qu'ils allaient au bal, qu'ils allaient travailler, qu'ils allaient promener, et qu'ils, par moment, allaient faire de la musique, comme ça. Le jour où je me suis aperçu que j'étais pas comme les autres, que j'avais quelque chose en plus, ou quelque chose en moins, je me suis caché, j'ai eu honte de la musique. Vous avez compris ? Voilà.
J'ai noté une phrase de vous aussi, je sais, on dit tellement de choses. Hein. La musique, ça m'empêche d'être totalement incroyant. Alors, incroyant de quoi ?
Vous savez, quand vous voyez que la Terre, ça a commencé, c'était tout en flammes, et puis après, il y a eu des amibes, petit à petit, et tout ça finit par Beethoven, par les grands artistes, par Rembrandt, par Van Gogh. Comment ça se fait, ça ? Alors c'est tout. C'est ça qui m'impressionne.
Est-ce que vous avez jamais pensé à être un homme politique ?
Ah, sûrement pas. Non. Je sais qu'il m'est arrivé d'appartenir au Parti communiste français pendant 5 minutes. Pas 6, 5. Je vous raconte. C'était un copain qui m'embêtait, il me dit viens, viens, parce que moi j'étais dans une maison d'édition qui appartenait au Parti communiste, j'allais savoir pourquoi, j'essayais d'éditer des trucs. Ils n'ont jamais rien fait d'ailleurs. Ils ont vendu ça à l'autre éditeur. Et il me disait, ce garçon, c'est un bon musicien, il me disait viens, viens, viens Léo, c'est formidable, viens au Parti. Viens, Léo. Il m'a dit tellement de ça. Enfin, pour le faire plaisir, un jour j'y étais. Alors on est descendu, on est allé dans 4 rues, je sais pas, c'était dans le 4e arrondissement. On est allé là-bas, et puis il y avait dans le sous-sol une salle avec une table où il y avait une cellule à laquelle j'allais appartenir. Vous voyez. Alors je me suis assis, et le type qui était un maçon de profession, qui était secrétaire de la cellule, qui était au bout de la table. Moi j'étais là, il y avait mon copain, et il m'a donné la carte, j'ai payé le truc de l'année, là, je sais pas quoi, c'était le timbre, n'est-ce pas ? Et voilà, j'étais communiste. J'ai mis ça dans ma poche, et le type a commencé à parler de communisme, comme ça, de toutes ces vedettes de l'époque qui allaient à Moscou, vous savez, tout ça. Alors, le maçon, là, il parlait comme ça. Et mon copain qui était là, lui lève le bras comme ça, lève la main, le doigt comme ça. Alors l'autre lui dit, le maçon lui dit, « Non, tout à l'heure, camarade. » Alors je me suis levé. « Moi, c'est pas tout à l'heure, monsieur, c'est tout de suite. » Tac, tiens. Voilà.
Vous avez suivi les événements de 89, notamment de ceux de Pékin, et qu'est-ce que ça vous a fait ?
C'est effrayant, quoi. Effrayant, ce garçon quoi, qui est allé attaquer tout seul C'est à Paris, comment ça s'appelle ce truc, hein? Un char, oui, et puis qu'on l'a tué après. Je suis très loin de ces gens-là, moi. Ah oui, je sais pas, physiquement, je ne peux pas les supporter. J'ai peut-être tort, j'en sais rien. Ils sont 1,2 milliard.
Et ces transformations en Europe de l'Est, révolution douce en Allemagne et en Tchécoslovaquie, et puis un peu plus dur en Roumanie, vous avez suivi aussi?
Oui, oui, c'était extraordinaire. Moi, en Albanie, où ça se maintient, n'est-ce pas? Attendez, avoir un mec que ça concerne et qui est dans sa place tranquille, qui se fait du fric, quoi. Je suppose. Ou qui se fait une morale à lui, quoi.
Qu'est-ce que vous pensez du général de Gaulle? Est-ce que vous êtes toujours dans les 14% qui le rejettent?
Moi, je ne peux pas supporter ce type, mais pendant. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais pendant la guerre, au moment où les Allemands faisaient le gros machin, ma mère, un jour, moi j'étais gaulliste, mais j'aurais pu être iste. J'étais iste parce qu'il y avait quand même un type qui était un peu contre les Allemands, qui était parti en Angleterre. Et ma mère aussi, d'ailleurs. Et mon père était pétiniste, sans être pour autant pour les Allemands, bien sûr, il comprenait pas. Et lorsque les Allemands sont rentrés, tout berzin comme ça, en Russie, avec une force incroyable. Ce jour-là, j'ai dit à mon père, « Papa, nous avons gagné la guerre. » Et mon père s'est levé, il était dans le couloir qui allait vers la salle à manger là-bas. Il a pris un petit machin, là. J'étais sous verre, j'étais en soldat, il l'a pris, tac, il l'a mis par terre, il l'a cassé. Et ma mère m'a dit, « Derrière Léo, cette nuit, il va se lever, il va la ramasser. » Et c'est ce qu'il fit. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, mais vous m'avez demandé pour De Gaulle, là, le truc. Oui, moi, je ne me suis pas occupé de ce type, quoi. Je dis, après, quand il est rentré, il a fait le tour. Je n'aimais pas sa voix. J'étais... Je voulais vous dire quelque chose, justement, avec De Gaulle. Je ne me rappelle plus. Ah oui.